C-I.
Une radio, une appli, connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici, soutient la musique locale.
De velours, c'est le coup.
Je raconte des histoires. Oh, je suis le héros. Oh, je suis le plus beau du scénario. L'élément déclencheur. La première étincelle.
Entre soul, funk et pop soyeuse, De velours, c'est un style à part sur la scène toulousaine. Un univers rétro et sensuel où chaque note semble caressée par la lumière. Avec son groove élégant et sa voix feutrée, De velours ravive l'esprit des années 80 tout en y insufflant une modernité pleine de charme et de justesse.
Celle qui se dispute, celle qui te percute, celle qui prend des cours, qui fait l'amour en plein jour. Telle un hypercute, un chaos sans parachute. Pour qu'elle me voie, je ferai n'importe quoi.
De velours, celle qui, un coup de cœur, ici Occitanie.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tchou Picard. Annick Bonhomme.
C'est quoi l'amour ?
L'amour, c'est un lien entre plusieurs personnes, parfois, qui fait qu'on s'aime vraiment beaucoup. Ça peut être beaucoup, un peu, moyennement, ou à la folie. Hein. Tu peux avoir de l'amour pour une personne, mais c'est ton ami. Ou tu peux avoir de l'amour, la personne, tu la trouves belle, elle est attentionnée, elle est gentille et tout et tout. Et elle fait pas de bêtises, c'est sûr, tu serais amoureuse. Hein.
Mais il y a des fois, même si elle fait des bêtises, tu peux tomber amoureux de lui quand même.
Comment ça se manifeste ?
Souvent, moi, mon problème, c'est avec des rougeurs. C'est horrible.
L'amour, c'est quelque chose... ça représente un cœur. Il y a une personne, une autre personne, ou on pourrait être à quatre, je sais pas. Plein de personnes pourraient tomber amoureux, avoir des sentiments. Ça pourrait très bien être... un homme avec un homme ou une femme avec une femme, ça se peut.
Ou alors dans la famille, on peut s'aimer dans la famille. Par exemple, papa et maman, ils s'aiment beaucoup. Par exemple, ma mère, elle m'aime beaucoup. Donc voilà, quoi, c'est l'amour, ça.
C'est vrai que c'est horrible, c'est quand tu sens un truc dans ton ventre. Moi, ça me... Et en fait, des fois, je le regarde et je le regarde pas trop. Parce que si je sais que sinon, il va zouter un truc. Si, oui, tu deviens rouge des fois, enfin, c'est horrible.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici au Serre.
Itinéraire bis cette semaine, nous sommes à Tonnerre et aujourd'hui je me suis arrêtée à l'atelier Terre, 6 rue de la Bonnetterie, tout près du port de Plaisance. Vanessa Akoka, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans ce superbe lieu, l'atelier Terre. Vanessa, c'est quoi ?
C'est un atelier de poterie et boutique aussi, où on fabrique des poteries utilitaires, de la vaisselle, et on vend sur place.
On fabrique, vous n'êtes pas toute seule.
Et non, je suis avec Philomène Petitjean, et nous sommes donc à quatre mains pour fabriquer toutes ces réalisations.
C'est-à-dire quatre mains, expliquez-moi Vanessa, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que... ensemble, on part du morceau de terre et on fabrique ensuite toutes nos céramiques, du plat à gratin, aux marmites, aux théières, aux saladiers, ensemble, et on les décore ensemble. Il y a vraiment c'est vraiment un mélange. C'est-à-dire que si l'une tourne, l'autre peut décorer, ou inversement, toutes les étapes sont faites à quatre mains. Mais ça reste toujours, de toute manière, des pièces uniques, et même quand on fait le même décor, c'est toujours un décor à main levée, donc toujours unique à chaque pièce.
Vous avez des décors très originaux. Moi, j'adore parce que ici, dans cette boutique atelier, il y a énormément de couleurs.
Oui, en fait, c'est notre métier de tous les jours. Donc, on a choisi de faire des choses plutôt gaies, plutôt colorées. On a cherché beaucoup des couleurs joyeuses. Et voilà, on en fait... on s'inspire de plein de choses, de la nature. C'est parfois un peu naïf, c'est parfois très graphique. Voilà, floral, il y a plein de décors différents.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
tout, toutes les étapes. Je trouve que c'est un métier au départ très physique quand on travaille l'argile, parce qu'on travaille des poids de terre, on doit pétrir, on doit malaxer la terre. Et puis ensuite, on passe au décor où c'est beaucoup plus délicat. Et donc, ce que j'aime dans ce métier, c'est la variété des étapes. Puis la matière, la terre, c'est vraiment formidable.
Alors, vous ne restez pas qu'à Tonnerre, vous faites avec Philomène plusieurs salons. L'accueil du public face à vos poteries, c'est quoi ?
Et ça, pour nous, c'est un peu la récompense. C'est vrai que quand on va sur des salons, parce qu'en fait, on n'en fait pas tant que ça dans l'année, hein, parce qu'on a vu avec la boutique, c'est pas facile. Mais vraiment, on est super contente de voir la réaction des gens. Ils trouvent ça aussi très coloré, très joyeux. Et en même temps, on va sur des salons autour de la cuisine, des restaurateurs, etc. Et en fait, ils aiment beaucoup le fait qu'on puisse se servir de nos poteries au quotidien. Leur quotidien, d'avoir des tasses, des assiettes, des plats qui vont vraiment au four. Et des fois, ils nous racontent aussi leurs recettes. Et ça, c'est super agréable.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
Bonjour Daphné Michelin.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Votre visite matinale pour parler de curiosité, de patrimoine, d'histoire également en Romardèche. Pourquoi la Loire a plusieurs sources au Mont-Gerbier de Jonc ? Une rivière, ça commence pas par un seul endroit en général ?
Alors si seulement c'était aussi simple,
oui,
Philippe.
Bien sûr.
Vous allez voir, ça se complique. Ouais. En fait, en Ardèche, au pied du Mont-Gerbier de Jonc, la Loire prend bien sa source.
Ah, voilà, c'est
là,
ça.
Vous avez raison.
Bon.
Mais pas une seule. Trois sources sont officiellement reconnues.
Trois, c'est pas un peu exagéré cette histoire ?
Il y a d'abord la source géographique,
oui,
la plus en altitude. Puis on a la source véritable, hein, qui donne le plus gros débit. Et enfin, la plus célèbre, la source authentique, hein, celle que les touristes visitent, hein, signalée par une jolie plaque et une petite cabane en pierre.
Excusez cette question un peu enfantine, mais la vraie de vraie, c'est laquelle ?
Eh bien, un petit peu les trois.
Ouais.
En fait, c'est la même nappe souterraine qui ressurgit à différents endroits. Hein. Les géographes du 19e siècle ont identifié plusieurs émergences et plutôt que de choisir, eh bien, on les a toutes gardées.
Donc la Loire a plusieurs débuts.
Exactement, voilà, ça fait un petit peu son charme. Hein. Le Mont-Gerbier de Jonc, c'est un volcan éteint, un paysage magique à 1551 mètres d'altitude. Et c'est là que naît eh bien, le plus long fleuve de France,
oui,
qui ira jusqu'à l'Atlantique après 1006 kilomètres.
Ouais, et dire qu'on passe souvent devant sans imaginer que ce petit filet d'eau, parce que c'est pas grand-chose au début,
exactement,
hein, deviendra ensuite un fleuve immense. Il y a de quoi voir l'Ardèche comme le berceau de la France quand même, un peu. Hein, je ne vais pas non plus ramener à l'Ardèche, mais bon.
C'est exactement ça. Une prairie, un volcan endormi, ouais, et la naissance d'un fleuve mythique, comme quoi, hein, même les grandes histoires commencent souvent dans un petit coin tranquille d'Ardèche.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Je serai votre pop star, je serai votre king.
Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Belfort-Montbéliard.
Bonjour Élodie Fons.
Bonjour Angélique.
Oui. L'engagement associatif, pour vous, c'est une vraie vocation. Vous êtes tombée dans la marmite de l'associatif très très jeune.
Oui, c'est ça. Je suis arrivée en tant que stagiaire il y a 17 ans dans l'association et j'en suis jamais partie. J'ai été administratrice depuis plus de 11 ans et du coup là, je suis nouvelle directrice depuis le 1er janvier.
Le collectif Manifeste à Montbéliard, on le connaît bien. On connaît aussi forcément le Festival des Mômes à la fin de l'été, juste avant la rentrée scolaire.
Alors oui, comme vous l'avez dit, notre grosse manifestation, donc c'est le Festival des Mômes qui a lieu fin août. Ensuite, on co-organise avec la ville de Montbéliard et l'office de tourisme du pays de Montbéliard les journées gourmandes en septembre. Et on est présent sur le marché de Noël, donc c'est une grosse partie de notre activité également, avec nos 3 chalets de vente de boissons et notamment notre célèbre Vachon.
Qu'est-ce qui fait que cet engagement associatif est présent aussi pour les jeunes aujourd'hui ? Alors, pas forcément pour adhérer à l'association ou faire partie du bureau, mais pour venir vous donner un coup de main sur les manifestations.
Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes, on en a plus d'une centaine qui nous rejoignent sur les manifestations. Alors après, nous, comme on leur dit, c'est toujours un petit plus dans le CV. Ça fait des connaissances, des relations, on rencontre du monde, on rencontre d'autres jeunes, on peut rencontrer aussi des professionnels, selon aussi le secteur. Si, par exemple, sur le Festival des Mômes, si c'est quelqu'un qui veut partir dans la petite enfance ou autre, il peut se faire aussi des relations. Donc voilà, ça apporte aussi un petit plus et c'est toujours une expérience sympa à vivre.
Mais oui, c'est vrai que c'est une expérience sympa. Vous êtes nombreux ? Combien vous êtes dans l'association ?
Alors nous, on a plus de 150 bénévoles adhérents à l'année et donc une centaine de jeunes qui nous rejoignent sur nos manifestations.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'oserait peut-être pas encore franchir le pas, quel que soit son âge, pour venir rejoindre le collectif Manifeste ?
L'essayer, c'est l'adopter.
Non, excellent.
Non, il faut venir essayer. Après, voilà, chacun fait, tous les savoir-faire sont les bienvenus. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Après, voilà, ça reste des bénévoles. On essaye de toujours prendre en compte leurs désirs, ce qu'ils aiment faire, leur hobby, par exemple, s'ils aiment la peinture ou autre. Voilà, les mettre sur des choses qu'ils aiment faire. Et puis voilà, venir essayer. Après, ça coûte rien d'essayer de venir nous rejoindre sur une manif et puis de voir si on veut revenir par la suite ou pas.
Bien sûr, et quand l'ambiance est bonne, hein, forcément, ça motive davantage. Les grandes lignes directrices pour 2026, vous les avez déjà ?
Alors là, on va rester principalement sur nos manifestations, donc le Festival des Mômes, Journée Gourmande et Marché de Noël. Après, on apporte notre concours à la ville de Montbéliard et à nombreuses associations locales sur leurs organisations de manifestations, telles que le Carnaval des Enfants, là, le 17 février, Ma Ville en Terrasse en juin, et aussi le Semi-Marathon du Lyon en septembre. Donc voilà, on a un planning assez chargé. Pour l'instant, on se tient à ce planning-là, mais on a des projets peut-être pour la suite.
Et ça, c'est positif aussi.
Oui.
Merci beaucoup, Élodie Fons.
Merci beaucoup, Angélique.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
En fait, les animaux, c'est à peu près comme nous. Quand on met trop fort, et ben, ça peut leur casser le tympan.
Là, ça dépend des animaux.
Par exemple, les poulains, ça aime bien la musique pour un peu s'endormir.
Je pense que les cerfs, ça aime la musique de la flûte. Parce que quand j'ai fait de la flûte, il y avait un cerf qui venait.
Le perroquet, bah, je pense qu'il aime bien les musiques où on répète les choses.
Bah, les musiques à refrain et les musiques où, par exemple, il y a quelqu'un qui dit un mot. Et il y a un autre groupe qui dit un mot.
J'ai un chat, mais il a plutôt peur de l'enceinte. Et il a peur du son quand c'est trop fort. Quand le son est à 3 bars, il peut passer à côté de l'enceinte et il a rien. Il a juste ses oreilles qui se tournent vers l'enceinte. Et si on hausse le son, bah après il se met à courir partout et il est excité.
En fait, je pense que si tu faisais un faux chat en carton avec un enceinte, tu mets des sons de miaou, et ben je pense qu'il dirait, il viendrait voir le chat et il ferait une fausse bagarre vu qu'il est en carton.
En fait, les animaux, c'est à peu près comme nous. Quand on met trop fort, et ben, ça peut leur casser le tympan. Je sais pas si c'est ça, mais je pense que la forme des oreilles, et ben, ça différencie les chats, souvent les chats, les animaux domestiques, ils aiment bien la musique douce.
Il y a à peu près tous les animaux qui aiment bien la musique douce parce que la musique pas douce, et ben, ils aiment pas trop ça.
Mais ça veut dire quoi, miaou ?
Quand un chat le dit fort une fois, c'est pour dire au secours. Quand ils le font plusieurs fois, c'est plutôt pour essayer d'expliquer j'ai besoin de quelque chose. Et quand il râle, il fait ça pendant longtemps. C'est ce qui énerve un peu l'humain. Par exemple, il monte sur le canapé et que l'humain, lui, il dit mais descends, il va le faire plus qu'une fois et tout ça.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Mais Adicias, eh bien c'est 10, la santat. Il paraît que la santé se lit sur notre visage.
Eh bien,
ben oui, c'est ce que vous dit cette expression en occitan. La santat se porte sur la cara. La cara, c'est donc le visage. Alors le médecin se dit en occitan le medje. Medje qui a donné d'ailleurs un nom de famille, medje, qu'on retrouve dans toute l'ère linguistique occitane. Se dit le medje en occitan, mais c'est pour dire le tabé le medici. On peut dire aussi tout simplement le medici. Justement, le melio medici à cause de toupie.
Qu'est-ce à quoi ça, l'outoupie?
Ben, l'outoupie, ben, c'est le pot de terre allant au feu pour chauffer les aliments. Le melium medici à cause de l'outoupie se traduit par le meilleur médecin, c'est le pot.
Ouais, ce qu'on mange.
Ben, voilà, entendez que la bonne nourriture conditionne la santé. En gros, ben, ne mangez pas trop de cagnards, ne mangez pas de mauvaises choses, ne mangez pas trop vite, car cela peut avoir un impact sur votre digestion. Car on dit en occitan, que la lingua es lo miral del ventre.
J'ai déjà entendu cette expression. Ah, c'est la langue est le miroir du ventre.
Eh oui, très très bien. Qui digère bien à la langue nette. Alors pour être en bonne santé, il faut bien manger, privilégier la qualité, et il faut aussi bien dormir. Lucir, ben pas trop de télévision, d'ordinateur, de tablette ou de téléphonette abandonnant l'yeit. En résumé, le soir, pas trop
de télé,
d'ordinateur, de tablette, d'écran, etc., de smartphone avant d'aller au lit. Et oui, car une bonne corde des couilles fa mai que lo medici, c'est-à-dire un bon coup de coussin, donc une bonne nuit de sommeil, fait plus que le médecin. Ici.
Vous écoutez ici.
Cherche encore quelque part un peu de nous. C'est ton regard qui m'aide parce que c'est flou. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que j'ai des doutes. Que les non-dits se transforment en j'en ai rien à foutre. Et sincèrement, même dans les échecs, on garde le pont. Et même si notre histoire un jour a vu le soleil dans mes souvenirs, on a trop perdu de temps. J'aimerais que le vent se lève. Si seulement, si seulement, autrement. Mais si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement, si seulement, si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement, si dessiner nos sourires. Je rêve du parfum de tes soupirs. C'est pas normal, non c'est pas normal de faire semblant. Seul on s'en sort mal. On n'a plus le temps. Je vis dans tes repères. J'ai des larmes de pierre. Je veux qu'on se souvienne que le silence nous perd. Je veux que tout s'arrête et que le vent se lève. Je viens de faire mes aveux. J'ai besoin de parler un peu.
Si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement, si seulement, si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement, si seulement.
On prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Champagne-Ardenne.
Des drones qui sont de plus en plus utilisés dans l'agriculture ou encore la viticulture. Pour preuve, cette société qui est née à Reims en 2022, elle s'appelle Agrigo. Bonjour Guillaume Dabel.
Bonjour.
De cette société, Agrigo, en quoi vous aidez les agriculteurs avec des drones ?
Nous, avec les drones, on va être capable de faire plusieurs services en fait, qu'on va rendre aux agriculteurs. On va être capable de venir détecter les adventices présentes dans les cultures. Le drone survole les cultures, prend des photos. Nos logiciels développés en interne vont venir détecter les adventices qu'on a besoin d'éliminer.
C'est quoi ? C'est des chardons ? C'est quel type ?
Voilà, tout à fait. Ce sont des chardons, ce sont des chénopodes, c'est du chiendent, du vulpin. Il y a beaucoup, beaucoup d'herbes qu'on considère comme des mauvaises herbes, nuisibles aux cultures. Et on peut tout détecter avec ce logiciel qu'on a créé en interne. On va être aussi capable maintenant d'effectuer des épandages pour traiter les cultures, notamment dans le maïs où on vient épandre des larves de trichogrammes contenues dans des petites billes que le drone vient larguer à intervalles réguliers dans la culture. Donc là, on a une protection biologique de la culture.
Alors, quand vous dites épandage, c'est différent de pulvérisation. Les pulvérisations d'herbicides, d'insecticides, on n'a pas encore le droit.
Tout à fait, c'est des choses vers lesquelles on tend à évoluer d'un point de vue réglementaire. Pour l'instant, on n'a pas encore le droit de les faire. On est cantonné à épandre certaines catégories de biocontrôle.
Et puis, il est possible aussi de répandre les semences par drone.
Tout à fait. Il est possible maintenant d'épandre ce qu'on va appeler des couverts d'interculture. Ce sont ces cultures, en fait, que les agriculteurs vont épandre entre deux cultures commerciales. Donc typiquement, nous, on vient avec le drone qui va emporter un réservoir qui contient les graines. Les graines sont épandues à la volée, comme on pourrait le faire pour épandre du gazon dans son jardin. Les graines poussent, l'agriculteur vient récolter son blé. Juste derrière, la culture est déjà en place. C'est un gain de temps très précieux pour l'agriculteur.
Ça reste assez marginal, l'appel à des dronistes dans les champs, ou ça se développe de plus en plus ?
Non, ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, Agrigo, c'est un réseau de 15 pilotes en France. On a aussi une présence en Europe sous d'autres activités où on représente un total de 95 pilotes en Europe tout de même.
Le pilotage des drones est réglementé, hein, tout le monde ne peut pas le faire. Comment vous faites ? L'agriculteur fait appel à Agrigo et ensuite vous travaillez avec un réseau de dronistes professionnels diplômés.
C'est exactement ça. Nos clients, ce sont les coopératives, les négoces agricoles qui, eux, vont regrouper le besoin de leurs agriculteurs. Les coopératives vont venir saisir les parcelles qui ont besoin d'être traitées sur notre plateforme en ligne. Là-dessus, on vient regrouper ces parcelles sous forme d'une tournée. Les pilotes ensuite interviennent, ce sont des indépendants, ils interviennent là où on leur dit d'aller.
Merci Guillaume Dabel, responsable développement et pilote de drones chez Agrigo à Reims. Des interventions par drone dans l'agriculture, mais il y en a aussi dans la viticulture. Et on aura l'occasion d'en reparler prochainement dans Terre de Champagne-Ardenne.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Brésil.
Salut Brésil.
Comment que ça s'appelle cette mignonne ?
Je m'appelle Pauline, je suis éducatrice canin.
Yes ! Qu'est-ce que c'est ça là ?
Et j'ai 27 ans.
C'était il y a 27 ans, moi je ne dormais pas et je m'en rappelle très bien.
Et je suis dans les petits bonheurs.
La bonne humeur, c'est le début du bonheur.
Elle vient d'où cette fille ?
Je suis de Bezec-Conques, Concarneau.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein ?
Qu'est-ce que j'y trouve ? Des marins, des pêcheurs et beaucoup de joie de vivre.
L'impôt sur le droit de vivre, ça ne vous dit rien ?
Hélas, si.
Je voudrais pas te décourager, mais ce serait plutôt un temps de se promener, tu crois pas ?
Moi, mon coin préféré quand je me balade depuis peu, bah, c'est en bord d'océan.
De quel côté est-ce que tu veux qu'on aille ?
Pointe de Trévignon. La pointe de Trévignon, eh bien, il y a une jetée, il y a un café-resto en bord de... en Bordeaux.
Qu'est-ce qu'elle fout à Bordeaux ?
Bordeaux, c'est à côté de l'Atlantique, hein, donc...
D'autres préférés, d'autres endroits, mais c'est vrai que moi, j'y trouve un coin pour me reposer, un coin pour me promener, un coin pour regarder, et c'est ce qui me plaît.
Il paraît que là-bas, il y a des coins où c'est toujours l'été.
Mais de toute façon, à la télé, ils disent toujours n'importe quoi.
Alors, où est-elle ton île ?
Si je devais finir mes vieux jours sur une île bretonne, ah alors j'en connais peu, hein, mais j'ai adoré Ouessant, parce que c'est sauvage, parce qu'il y a des tempêtes, puis il y a les moutons.
Ce mouton, depuis qu'il est rasé, ressemble un peu à un cochon, non ?
Alors j'ai découvert Ouessant grâce à mon conjoint qui me faisait découvrir la Bretagne. Donc nous sommes partis sur le fameux bateau qui nous y a emmenés. Et on s'était dit que pour visiter un maximum de l'île, on allait le faire en vélo pour que ce soit plus pratique. Et c'est comme ça qu'on a fait le tour d'Ouessant avec un petit chien dans le panier et notre gros chien qui courait avec nous.
ragoût doudou, le ragoût de mon doudou.
Ragoût doudou, le ragoût de mon doudou.
Allez, vas-y, vas-y, fais-nous rire.
Raconte-nous une histoire, allez.
C'est une blague?
Non, c'est une devinette.
Je déteste les devinettes.
Qu'est-ce qui est jaune et qui fait croc-croc?
J'en sais rien.
Un poussin qui mange des chips.
Et vous trouvez ça drôle? Non.
Allez, salut.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Affaires classées, le podcast. Nous sommes à l'été 1380. Gaston Phébus, le puissant comte de Béarn et de Foix, échappe de peu à un empoisonnement lors d'un séjour au château d'Orthès. Qui voulait donc sa disparition?
Affaires classées, un podcast Ici.
Perché sur un promontoire, le donjon du château Moncade domine fièrement la cité d'Orthès et la vallée du Gave depuis 7 siècles. Il témoigne surtout d'un glorieux passé, au temps où le Béarn était gouverné par la dynastie des Moncades. Le château devient alors le cœur du pouvoir local, grâce à Gaston VII qui déménage la capitale de la vicomté de Morlas à Orthès. Une somptueuse cour prend ses quartiers au sein de la forteresse. C'est finalement Gaston III de Foix-Béarn, dit Phébus, qui s'y installe après d'énormes travaux d'embellissement. Un symbole de puissance qui va de pair avec son ambition de faire du Béarn un état pyrénéen à part entière. Mais les bonnes choses ne durent qu'un temps. Un siècle plus tard, en 1464, le siège vicomtal est transféré à Pau, affectant le prestige du château orthésien que les guerres de religion puis la bataille de 1569 endommageront gravement. Et pourtant, vestige d'une époque médiévale bien révolue, le donjon de Moncade est toujours là, debout. Un drame sanglant s'est déroulé ici il y a bien longtemps. Un drame que les livres d'histoire évoquent rarement. Nous sommes en l'an 1380. Phébus est le maître des lieux. Né en 1331, il est déjà quasi quinquagénaire et sa flatteuse réputation n'est plus à faire tant il a marqué le siècle de son empreinte. Ardent combattant, Phébus a remporté de rudes batailles militaires contre ses voisins d'Armagnac. Et tandis que la guerre de Cent Ans fait des ravages dans l'Hexagone, Gaston III s'est révélé fin diplomate en intercédant auprès des rois de France et d'Angleterre, évitant ainsi un bain de sang à ses sujets. On le sait sans doute moins, mais Phébus avait aussi d'autres cordes à son arc. Architecte, bâtisseur de forteresses, mécène pour la création musicale, poète, écrivain, bibliophile, une façade brillante qui cache aussi un sombre épisode de sa vie. Un drame qui met aux prises le flamboyant seigneur béarnais et son fils légitime Gaston, l'héritier, né 18 ans plus tôt de l'union avec Agnès de Navarre.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Petit rappel, nous sommes en 1349 quand Phébus, 18 ans, se marie à Agnès, 15 ans, fille de Jeanne de Navarre et sœur du roi Charles II de Pampelune. L'union semble idyllique. Les deux mariés sont riches, instruits, de belle apparence. Mais on verra bien vite qu'il s'agit d'un mariage arrangé, comme souvent à l'époque. Agnès paraît rarement au bras de son époux. Son nom n'est jamais cité. En fait, Phébus se passionne pour ses activités de jeune seigneur et il n'a que faire de ses obligations conjugales. Il délaisse sa moitié, affectivement et financièrement. Agnès est sans le sou, à tel point qu'elle doit réclamer de l'aide à son frère, le roi de Navarre. Phébus
ne se soucie pas davantage qu'Agnès lui donne un jour un héritier, un garçon de préférence, afin qu'il assure sa descendance. La surprise viendra pourtant en 1362, soit plus d'une décennie après leur mariage, quand la jeune comtesse donne naissance à un garçon prénommé Gaston, lui aussi. Phébus sera-t-il meilleur papa qu'il n'est époux ? Que nenni, hélas ! Trois mois plus tard, il chasse subitement son épouse du château Moncade. Motif avancé, sa famille n'a pas payé l'intégralité de la dot nuptiale, cette somme d'argent que l'on versait à l'époque aux jeunes mariés. Répudiée, la comtesse de Foix va trouver refuge à la cour de Navarre chez son frère Charles II, loin de ce nourrisson qu'elle ne pourra élever. L'attitude de Phébus indigne en haut lieu. Malgré les efforts du pape, des évêques, des seigneurs de Béarn, d'Aliénor, sa mère, il ne faiblit pas. Ce qui est dû, puisque la dot demeure impayée, Agnès n'a rien à faire à la cour d'Orthès. Phébus brille par sa cruauté et peu lui importe qu'il prive son nourrisson de sa maman. Moralité, Agnès n'aura servi qu'à enfanter un descendant. Phébus, le brillant diplomate, commet une lourde erreur. Il indigne l'Église. Il suscite aussi les foudres du roi de Navarre, le beau-frère qui se sent humilié et jure d'avoir sa peau. Mais c'est ainsi. Gaston Junior grandira seul au château Moncade, loin de sa mère, et délaissé par son père.
Affaire classée, un podcast ici Béarn Bigorre.
Phébus n'aime pas ce fils. Il lui préfère Bernard et Yvain, ses deux demi-frères nés d'aventure avec d'autres dames et qu'il surnomme sans la moindre gêne ses bâtards. Gaston Junior sera donc élevé par les femmes de la cour d'Orthès, mais il n'a même pas son cheval, un comble, une humiliation pour l'époque. Il rencontre sa mère pour la première fois à 13 ans en 1375. Phébus accepte qu'il se rende au siège de la cour de Navarre à Pampelune, accompagné de son précepteur, l'évêque de Lescar, afin d'assister à un mariage. Que se sont dit Agnès de Navarre et cet adolescent qu'elle a dû abandonner à la naissance ? Nul ne sait. Gaston Junior se sent ignoré, méprisé par ce père tout-puissant qui voit possiblement en lui un rival. Son oncle maternel, le roi Charles II, profite de la visite à la cour afin de tisser des liens avec lui. En fait, le cruel roi de Navarre prépare un complot contre Phébus, auquel il ne pardonne pas d'avoir répudié sa sœur du château Moncade. Un complot dont l'objectif consiste à l'assassiner. Charles de Navarre va pour cela s'entourer de nobles béarnais aussi influents que proches de Phébus, mais qui se montrent lassés de son autoritarisme et qui viennent peu à peu à le détester. L'idée est de se débarrasser de lui une fois pour toutes afin d'installer à sa place le prince héritier, le jeune Gaston. Un complot qui renouerait ainsi les liens avec le royaume voisin de Navarre. Ce sont le baron de Coarraz et l'évêque de Lescar, Odon de Mandousse, précepteur du fils de Phébus, qui sont à la manœuvre. Et pour cela, à l'époque, il n'y a pas meilleur moyen que de recourir au poison. Qui mieux que Gaston Junior pourrait approcher Phébus et glisser une substance fatale dans ses plats favoris ? Le complot prend forme à l'été 1380. Le 26 juin, un mystérieux émissaire arrive à cheval de Pampelune. Il remet discrètement un petit pochon à l'évêque de Lescar qui, moyennant argent, le confie ensuite à son disciple. Mais Gaston Junior sait-il exactement ce qu'on attend de lui ?
Veut-il lui aussi empoisonner son père? Ça n'est pas si sûr.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Dans les premiers jours du mois d'août 1380, le fils de Phébus, alors âgé de 18 ans, se rend aux cuisines du château à moult reprises. Des visites qui intriguent très vite le petit personnel puisqu'il n'y venait jamais jusque-là. Gaston guette sans doute le meilleur moment pour saupoudrer discrètement les viandes cuisinées pour le repas de son papa. Par mégarde, le pochon diabolique tombe de son veston. L'un des préposés s'en aperçoit et ramasse aussitôt le contenu qu'il remet à l'un des apothicaires du château. Le diagnostic tombe. Ça ressemble à du très mauvais poison, mais pour en avoir le cœur net, on le fait ingérer à un malade en fort mauvais état, lequel meurt dans les minutes qui suivent. L'instant est grave. Le fils de Phébus a tenté d'empoisonner son père au château. On savait certes que les deux hommes ne s'aimaient guère, mais de là à empoisonner le puissant comte Béarnais, il y a un pas. La nouvelle ne tarde pas à remonter aux oreilles du principal intéressé qui entre dans une colère noire. Phébus ordonne qu'on arrête le suspect séance tenante et qu'on l'enferme au cachot. L'exécuter sur le champ ne lui déplairait pas, mais chevaliers et écuyers l'en dissuadent. Mieux vaudrait enquêter d'abord son fils vivant, afin d'identifier les instigateurs du complot, lui glisse-t-il à l'oreille. Tandis que Gaston, l'empoisonneur, est jeté en cellule, Phébus ordonne l'arrestation de tous les sujets qui servent son fils, et notamment l'évêque de Lescar, son précepteur, lequel a déjà pris la fuite, se réfugiant à Pampelune chez Charles II, qui est en fait le cerveau du complot. Une assemblée de notables est réunie. Phébus leur annonce que des têtes vont tomber. On raconte qu'en suivant, une quinzaine de ses sujets auraient péri dans des conditions atroces. Reste maintenant à voir ce qu'il fera de Gaston, son fils. S'il l'exécute, le prince de Béarn va perdre son unique héritier. Une catastrophe à terme pour la survie de sa cour. Alors, Phébus se ressaisit. Il va se donner du temps. Interroger le fiston. Durant 9 jours, Gaston sera mis au régime pain sec et eau.
Affaire classée. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Avide de connaître le nom des instigateurs du complot qui le visaient, et notamment de celui qui a confié le poison à son fils, Phébus va l'interroger dans sa cellule au château. Le jeune homme finit par confesser qu'il a bien essayé d'empoisonner son père, ce qui est, à l'époque, le crime des crimes. Mais il ne lâche rien sur l'identité de ses commanditaires. Alors, Phébus enrage. Qui a voulu sa mort ? L'un des seigneurs d'Armagnac, ses ennemis jurés, ou bien son beau-frère, Charles II ? Le roi de Navarre a la réputation d'être si méchant qu'il en serait bien capable. Gaston Junior est soumis à la question à plusieurs reprises, sans résultat. On lui livre malgré tout de l'eau, de la viande, mais il n'y touche pas, craignant sans doute lui aussi d'être empoisonné. Se charger de le servir s'en inquiète auprès de Phébus. « Monseigneur, par Dieu merci, prenez garde à votre fils, il s'affame en prison, il pourrait bien mourir !» À cette annonce, le comte explose de colère, sans mot dire. Il sort de sa chambre et gagne les geôles où son fils croupit. Dans une minuscule cellule, les voilà maintenant face à face. Phébus tient dans sa main un petit couteau avec lequel il a l'habitude de se couper les ongles. Soudain, il s'emporte. « Petit traître, pourquoi ne manges-tu pas ?» Phébus assène un violent coup de poing à la gorge de Gaston. Mais la pointe de la lame
va sectionner une veine. Le jeune homme a à peine le temps de se retourner face au mur. Et tandis que son père quitte la cellule, il mourra quelques instants plus tard, étouffé dans son sang. Le geste de Phébus était-il intentionnel ou accidentel? Jamais on ne saura. Le sémillant prince Béarnais n'a évidemment jamais été jugé pour la mort de son fils. Le mutisme des témoins de l'époque en dit long. Mieux valait ne pas écorner l'éclatante légende du prince d'Orthès, décédé une décennie plus tard, en 1391, lors d'une chasse à l'ours. De Gaston Junior, il ne subsiste qu'une toile, intitulée « L'ange de foi ». Peinte 5 siècles plus tard, elle représente l'adolescent lors de la visite qu'il rendit à sa mère au château de Pampelune, la même où le complot fut préparé.
Affaire classée. Un podcast ici.
Le secret sanglant de la tour Moncade, c'était ce 5e épisode de la saison des affaires classées. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Nous serons sur les hauteurs de Bayonne, dans le quartier de la ZUP, pour un meurtre commis en l'an 2000, il y a de cela 25 ans. À très bientôt.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une gentelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, enfilés. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments. Maquillée outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. D'amertume sur un paravent décelant. Les dessous chics, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Dauphinoise, Dauphinois, bien le bonjour. Aujourd'hui, Saint-Martin-du-Riage. On m'a conseillé de dire que c'est le plus beau village du Dauphiné. Je le dis donc, Saint-Martin-du-Riage, plus beau village du Dauphiné. Ça n'est pas forcément certain, mais comme mon vénéré adoré, responsable des programmes, y habite, il m'a semblé judicieux de suivre son conseil, voilà, d'autant que j'ai eu le plaisir de manger chez lui les plus belles saucisses du Dauphiné et le meilleur flan pâtissier du monde. J'exagère à peine. Hein. Bon, donc, bref. Saint-Martin-du-Riage, village idéal, c'est marqué sur le net. Hein. Je rajouterai, comme une île au milieu d'un archipel, dans le coin, tout se touche. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Hein. Non, mais calmez-vous. Regardez, il y a Uriage, Saint-Martin-du-Riage, Saint-Nizier-du-Riage, le Pinet-du-Riage, Villeneuve-du-Riage, le Sonnant-du-Riage, j'aurais presque envie d'ajouter le Casino-du-Riage, les terme d'Uriage. Bref, restons à Saint-Martin pour ne pas nous perdre, ou pour mieux nous perdre dans la verdure et les forêts qui, comme un océan, entourent l'archipel en question. Alors, ce matin, j'ai de la poésie. Enfin bref, voilà, enchaînons. Un grand bonjour aux Saint-Martinois et Saint-Martinoises. Doit-on dire les Saintes Martinoises? Je n'en suis pas sûr. Elles ne le sont pas toutes. Ah, et non. Et il y a même une sorte de confrérie, dites donc, une tribu, un clan, au joli nom, les Motards en polaire. Non, vous avez bien entendu, en polaire. Ce ne sont pas les derniers pour la rigolade. Ah non, ils savent rigoler, ils aiment rire. Il faut rire, sinon ça les fâche et polaire se transforme en colère. Ça n'est pas bon. Cette association saint-martinoise est nationale, attention, hein, a pour but, je vous lis la phrase, hein, je vous la lis, hein, de promouvoir et favoriser l'usage des deux roues avec un moteur au milieu. Effectivement, quand on aime la moto, autant avoir un moteur entre les jambes. Ça aide. La moto à Saint-Martin-d'Uriage est presque une religion. Il y a même une sainte vénérée. Oui, c'est sainte Jacqueline. Alors, je dis, l'histoire raconte qu'à 2 mois, sa famille lui aurait acheté un tricycle dont elle aurait immédiatement scié une roue. Et qu'à 12 mois, elle aurait adapté un moteur de machine à coudre sur son engin. Ah oui. Malheureusement, elle aurait oublié que la longueur du fil électrique limiterait sérieusement ses déplacements. Ah ben oui, ça se passe à Saint-Martin-d'Uriage, tout ça. Ben oui, hein, belle ambiance à Saint-Martin-d'Uriage. Pas mal de gens sympathiques, mais un peu marteau tout de même, hein. Dauphinois, en quelque sorte. Et puisque vous le savez tous, je vous le répète, mais vous le savez tous depuis le temps que je vous le répète et que je vous le dis. En Dauphiné, on n'est pas des quand même.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Héros.
Et alors pour le coup, est-ce que les clichés, c'est vrai, quand vous avez des Belges qui arrivent, vous mettez des super bonnes bières au frigo, quand vous avez des Exactement. Anglais, vous mettez du vin de...
Ah oui. Bah, ce ne sont pas des clichés, c'est des clichés, mais des clichés qui se vérifient.
Virginie et vous.
Laure a ouvert son gîte en 2020. La maison 1634 est en plein cœur de Pézenas. 130 mètres carrés qu'elle a restaurés du sol au plafond. Le contraste entre l'extérieur en pierre et l'intérieur hyper confort et moderne est parfait. On arrive pendant le petit déjeuner. 3 couples sont installés sur la terrasse donnant sur un petit jardin. Des petits guéridons sont dressés avec de la vaisselle soignée. Les produits sont de qualité, locaux, ça se voit et ça se sent. Les langues différentes se mélangent. Du suédois, de l'anglais et du français avec l'accent suisse. L'ambiance est calme et souriante.
Vous avez mis votre verre d'eau?
Je regardais un peu d'un petit jardin. Ça, c'est le petit jardin. Les gens, ils ont accès... Je vous remercie beaucoup.
Les gens ont accès à la piscine, à la petite terrasse. Et en fait, le jardin, comme le jardin est souvent occupé par deux mes enfants.
Deux petites personnes.
Ils vont un peu moins dans le jardin.
C'est ça le principe de la chambre d'hôte des gîtes, c'est que vous partagez votre espace perso, ou là vous habitez ailleurs et ça c'est vraiment vos gîtes.
On habite, nous, juste à côté.
D'accord.
Normalement, la distinction entre les gîtes et les chambres d'hôtes, les gîtes, c'est peut être complètement indépendant d'une habitation personnelle, alors que chambre d'hôtes, on est légalement obligé d'habiter sur place.
Ah, ça, je savais pas.
Et d'être ici et de proposer le petit déjeuner.
D'accord.
Alors nous, on a fait une configuration. Les chambres d'hôtes un peu à l'ancienne, il y avait souvent l'espace salon, cuisine, petit déjeuner était partagé. Nous, pour la tranquillité des autres avec nos 2 enfants, on a volontairement fait un accès distinct de notre maison.
Oui.
On a chacun une porte d'entrée, ce qui permet aux autres de profiter. On leur a mis la cuisine à disposition.
Oui, c'est ça que j'avais vu.
Donc en fait, même si on est chambre d'hôte, voilà, si les gens veulent manger un bout, grignoter un morceau, n'importe quand, ils ont accès à la cuisine et
oui.
Ils peuvent profiter. Ils ont un accès indépendant si jamais ils arrivent à 16h30 dès que je suis partie chercher mes enfants à l'école. Ils ont le digicode, ils peuvent rentrer dans la maison.
Ouais.
On a voulu faire quelque chose de à la fois confortable, à la fois je suis ici et à la fois je peux être complètement discrète.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des personnalités des personnes aussi. Bon, y a des personnes qui pensent parfois réserver un hôtel en fait. Mais arrive ici, ah ok, vous habitez à côté, donc ils voient ça comme quelque chose de très positif parce qu'ils savent que je suis disponible.
Oui.
Mais en même temps, je sens qu'ils souhaitent être tranquilles.
Oui.
Et après, des personnes, pour le coup, lorsqu'ils réservent par des plateformes comme Gîtes de France, s'attendent à ce que je sois là pour les accueillir.
Ah,
et quand je leur dis qu'il y a un digicode, du coup, c'est une surprise inverse dans le sens où, ah ok, vous êtes là et en même temps, on peut être autonome. Donc,
oui.
On essaie de satisfaire tout le monde.
C'est pas évident, c'est un vrai truc de sentir chaque personne, effectivement, le besoin de distance et le besoin de présence.
Exactement.
La Maison de l'Or est labellisée Gîtes de France 3 épis, ce qui l'oblige à respecter un certain cahier des charges.
Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est parfait, vous inquiétez pas. C'était très bien, merci, c'est bon.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur. Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Pays de Savoie.
La place du village, c'est notre rendez-vous quotidien avec les frères Jean-Noël et Philippe de Paris à la rencontre des Savoyards et Hauts Savoyards. Et aujourd'hui, c'est Philippe qui est avec nous. Philippe, vous nous racontez une très étonnante visite sous terre à Ugine.
Ah oui, on est à Ugine, en Savoie, et c'est une rencontre absolument étonnante. Et ce jour-là, on est accompagné par Rudy Lauberton, qui nous fait pénétrer, Laurent, carrément sous la montagne. En fait, nous sommes dans des tunnels de la guerre. Il nous conduit dans des abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale. Des abris construits juste avant la guerre. Et comme il nous dit, comme on avait des usines sidérurgiques juste à côté, les avions pouvaient les bombarder. Voilà pourquoi il y a des tunnels. Et là, il nous conduit dans un tube qui lui appartient. 90 mètres de long, 2,50 mètres de diamètre. Et il nous dit là, on est juste au-dessous du centre-ville d'Ugine. Juste au-dessus de nous, on a même le musée du Crécherel. et c'est là que Rudy nous explique qu'il a un jour décidé d'occuper ces tunnels. Il avait pourtant déjà entendu que ces tunnels avaient déjà servi de cave à affinage pour les bons fromages de chez nous.
Bon, le suspense a assez duré, Philippe. Qu'est-ce qu'il y fait exactement?
Eh oui, qu'est-ce qu'il y fait? Et c'est là qu'il nous fait découvrir une étonnante ferme, l'Aubricole. Tenez-vous bien, l'Aubricole.
Ah oui.
Et oui, Rudy élève des vers. Il cultive aussi des endives et des champignons. Et là, il nous raconte comment il a découvert la lombriculture. C'est l'élevage des vers de terre, hein, pour mettre dans les lombricompus composteurs. Vous avez peut-être ça chez vous.
À la différence de vous, vous voulez descendre les vers.
Vous voulez descendre. Et il s'agit donc de ces déchets organiques, le compost, vous savez tout ce que c'est. Oui. Et donc, il va récupérer le terreau, mais aussi, tenez-vous bien, le jus fait par les vers, qui dit-il, c'est le meilleur engrais naturel, le jus de vers. Nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Et bien, ce sont ces vers de terre que vous mettez, je pense, dans votre compost. Il y a aussi le jus, il ne faut pas l'oublier. Et Rudy nous explique que le vers l'occupe surtout l'été, parce que l'hiver, qu'est-ce qu'on en fait des vers? On n'en fait rien. Et pendant l'hiver, il s'est donc mis à cultiver des endives, et puis, donc, du mi-novembre jusqu'au mois de mars. C'est vrai que pour que l'endive soit bien blanche, nous dit-il, pour qu'elle n'ait pas d'amertume, elle doit rester totalement dans le noir, et là, c'est l'endroit idéal.
Alors, les vers, l'endive, mais il y a aussi les champignons.
Eh oui, les champignons, des amis du noir aussi. Ils cultivent les fameux rosés des prés, mais aussi la pleurote. L'endroit est parfait, nous dit-il, 15 degrés, 85% d'humidité. Et là, il nous fait quelques confidences. Le champignon de Paris pousse sur du fumier de cheval, la pleurote sur du peuplier broyé, et le fameux shiitake, ce champignon étonnant, sur du chêne broyé. Le shiitake, vous savez qu'il a des vertus magiques, il fait pousser les dents, pousser les cheveux, et empêche de vieillir.
Et si vous voulez encore lire et écouter toutes les rencontres des frères de Paris pour la place du village, c'est sur notre site ici.fr.
Ici.
Elle est comme la lune, elle a comme un truc qui s'allume, elle a les plus beaux sentiments. J'ai le cœur en enclume, elle dit, viens au clair de la lune, comme quand j'étais enfant. Elles, elles sont comme la lune, comme elle. On n'en a qu'une, tu sais, faut le savoir avant. Et moi, il y en a quelques-unes qui m'ont aimé, mais jamais aucune, non, ne m'a aimé autant. Un jour, elle s'est...